All right, so let's get started for the GAC.
Très bien, nous allons commencer pour le GAC. C'est un échange que nous allons faire avec le comité at large. Ils ont présenté plusieurs questions qu'ils veulent débattre avec nous. On va les analyser. Lorsque nous aurons fini notre séance avec ALAC, nous allons consacrer quelques instants à mettre au point l'organisation de la journée. Que ce soit clair pour les membres du GAC, comment nous allons continuer avec notre ordre du jour, comment on va préparer le communiqué. Je regrette ne pas avoir pu traiter de cette question hier, mais bon. Si vous pouvez rester quelques minutes supplémentaires, on va aborder l'ordre du jour du GAC à ce moment-là. À ma gauche, il y a Olivier Crépin-Leblond, président du comité consultatif at large. Et je vais lui passer la parole. Olivier Crépin-Leblond, merci Madame la Présidente. Nous avons trois points dans notre ordre du jour qui ont été accordés avec le GAC. Premièrement, l'avis du SSAC sur les nouveaux GTLD, puis les engagements d'intérêt public, les PIC, et puis après, les fournisseurs de résolution de litiges et par la suite, une brève introduction d'ALAC et des régions. Quelles sont les structures à large? Et il faut commencer par le début, bien entendu. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'ALAC? Je reconnais qu'il y a beaucoup de nouveaux membres au sein du GAC. Je me réjouis de cela et je crois qu'il serait utile de faire une brève introduction. J'ai une présentation qui est sur l'écran. C'est quelques 10 diapos et nous n'allons voir que 2 ou 3 pour des questions de temps. Je vous prie donc de passer la première diapo. Voilà. Voilà donc le modèle multipartite de l'ICANN. Vous devez sans doute le connaître. La suivante diapo va nous montrer qu'au sein de l'ALAC, on fait quelque chose d'intérêt pour l'ALAC. On est en dehors des SO, des AC du Conseil. Vous allez trouver des modèles de multiples parties prenantes au sein du modèle général. Et l'un de ces sous-modèles, c'est justement celui d'at-large. L'idée, c'est d'incorporer les points de vue des utilisateurs d'Internet, les utilisateurs finaux d'Internet. Cela est fait à travers une structure que vous voyez dans la diapo suivante. J'espère bien que vous pourrez lire quelque chose là. Si vous ne la voyez pas bien, on peut vous envoyer le fichier. Alors, on est divisé en 5 régions, les 5 régions de l'ICANN. Au-dessus, il y a le comité consultatif at large qui se trouve à gauche de la diapo. Ce comité a 15 membres qui sont sélectionnés pour chacune des organisations at large dénommées RALO, R-A-L-O. L'Afrique, c'est AFRALO. L'Asie Pacifique et les îles du Pacifique, c'est APRALO. L'Europe, c'est ERALO. L'Amérique latine et les Caraïbes, c'est l'ACRALO et NARALO. Chacune de ces organisations ad large est composée par des structures ad large, à savoir des organisations qui peuvent être des chapitres ISOC ou des clubs informatiques ou des membres seniors ou des organisations qui s'occupent de communautés privées. Elles ne sont pas toutes liées à l'ICANN. En général, les utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire les intérêts de ces utilisateurs sont analysés. La raison pour laquelle on est divisé en 5 régions, c'est pour pouvoir offrir un équilibre entre les régions. Comme vous le savez, il y a des régions qui sont davantage représentées dans l'environnement de l'ICANN que d'autres. Mais ce qui est bien, c'est que on a trouvé que toutes les régions se sont développés rapidement à une vitesse sans précédent. À ce jour, on a de 20 à 30 structures à large dans chacune de ces régions. Nous voulons en avoir davantage. Et là, on peut peut-être créer de la synergie avec le GAC. Le GAC, qui a des représentants de chacun des pays, et là où il n'y a pas de structure à large, on peut travailler. Dans certains pays, il y a des structures à large qui n'ont pas des membres au sein du GAC. Et nous, de notre part, on peut vous aider à identifier des membres possibles pour le GAC dans ces pays. Je crois qu'il faut viser à cette synergie, justement, qui est très utile. Alors, les structures à large fonctionnent avec les HALO pour faire des contributions depuis la base des structures. Les structures à large travaillent conjointement avec les HALO pour passer tout cela à la LAC. Il y a deux personnes par région qui sont sélectionnées par les organisations à large. La troisième personne est sélectionnée par le NOMCOM ou comité de nomination, qui apporte des personnes très qualifiées à l'organisation. Le comité de nomination est là pour équilibrer toute différence en matière de sélection. On est mondialement diversifié, mais il y a aussi l'équilibre de genre et notamment l'équilibre de qualification. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une série de qualifications très large, un potentiel de qualification qui n'a pas de précédent. C'est un énorme réservoir auquel on peut faire appel. Alors, lorsqu'il y a des questions qui apparaissent dans l'agenda de l'ICANN, on va toujours trouver une personne qui est certainement un expert en la question et qui pourra discuter de la question avec d'autres experts, former un groupe capable de formuler une déclaration. Le comité consultatif à large, plus les présidents de chacune des organisations régionales à large, mène un processus de sélection pour le C15, pour le siège numéro 15, au sein du Conseil. En ce moment, ce siège est occupé par Sébastien Bachelet. Voilà, on a 150 structures à de large, vous le voyez dans la diapo, même on peut arriver à 160. Ceci augmente si rapidement, le développement est si rapide. Il peut s'agir d'un club d'informatique, une association, etc. On n'est pas 100% non commerciaux. Il peut y avoir des organisations à but non lucratif aussi, mais c'est pas tout à fait la société civile. Il y a un éventail très vaste de parties prenantes. Et qu'est-ce que nous faisons? Voilà ce qui est important. L'une des choses les plus importantes, c'est l'émission de déclarations en réponse aux demandes des commentaires publics. Vous savez bien quel est le processus de commentaires publics de l'ICANN qui crée ou qui présente des demandes des personnes qui veulent contribuer. Alors, le comité à large travaille conjointement avec le comité consultatif à large pour que ces contributions soient reflétées. Il s'agit d'un processus complexe, pas compliqué, mais complexe, pour garantir que les visions de la communauté à large représentent les visions et les opinions de toute la communauté à large. Voilà donc le premier aspect, mais il y en a un autre, d'autres travaux que nous faisons au sein du comité, à savoir émettre des commentaires sur n'importe quel sujet ayant trait à l'ICANN à tout moment. Concrètement, cela nous donne la capacité de nous adresser directement au conseil d'administration ou au groupe de travail de la GNSO, de la CCNSO ou de tout processus ayant lieu au sein de l'ICANN. Bien des fois, on a présenté des commentaires sur des processus externes, comme par exemple le renouvellement du contrat avec Yana, parce qu'il s'agit là de questions qui sont liées à l'ICANN. Il y a des membres qui participent dans des groupes intercommunautaires. Ces groupes de travail intercommunautaires peuvent, c'est-à-dire on peut y participer comme membre officiel d'ALAC ou non. Il faut voir si ça fait partie de la communauté ou du comité lui-même. Mais un bon nombre de nos membres participent directement en tant qu'individu des groupes de travail de la CCNSO et de la GNSO. Alors, il y a la possibilité d'intervenir à différents niveaux. En premier lieu, le groupe de travail lui-même, et puis on peut aller en avant pour aborder le groupe de travail ou le processus du PDP. Ce que nous faisons aussi, c'est envoyer le message de l'ICANN et faire d'intermédiaire pour le reste du monde, parce que l'intervention externe est l'un des piliers de notre travail. Nous avons des membres, comme vous le savez, qui sont éparpillés dans le monde. Et alors, lorsqu'il y a une conférence, lorsqu'il y a un forum de gouvernance Internet, ou bien lorsqu'il y a d'autres activités au niveau local, nous pouvons envoyer nos membres. En ce moment, le processus est ouvert. Le message de l'ICANN est fait à travers ces canaux de manière efficace, parce que tous ces gens parlent avec leur père. Et finalement, il y a bien sûr d'autres activités, d'autres intérêts, mais on a tellement de temps que nous parlons aussi de la présentation d'objections de la communauté en ce qui concerne les nouvelles candidatures aux nouveaux GTL de la LAC, actuellement un processus opérationnel et pas seulement la capacité de donner son avis ou ses recommandations. Alors, dans cette série de candidatures au nouveau GTL, l'ALAC a présenté pour Point Health, c'est-à-dire Point Santé, trois candidatures, à vrai dire. Hein. Le processus a été très soigné, encore une fois, pour nous assurer qu'il existait plusieurs filtres. Le processus devrait respecter certaines directives. Alors, on a pu présenter des candidatures basées sur la communauté et sur le public intérêt, l'intérêt public limité. Je ne vais pas approfondir la question du procès parce qu'il y a plusieurs sauvegardes. Hein. Il faut suivre les directives établies. Ce processus est en cours. Et on mène les différents débats avec les candidats, avec la Chambre de commerce internationale, etc. Voilà, c'est essentiellement ce que nous faisons. Si nous passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez voir comment on travaille de manière ascendante, 100% ascendante. Il y a les structures larges en bas de la pyramide. Comme je vous l'ai dit, des sociétés informatiques, des utilisateurs locaux d'Internet. Et chacun parle ou s'adresse à son organisation ad large. Et puis après cela, va finir aux 15 membres du comité consultatif ad large. Je sais que je me répète, mais moi-même, je me trompe. Hein? Alors, bien des fois, je confonds ALAC et ad large. At large, c'est toute la communauté, tandis qu'ALAC, c'est un comité de 15 membres. Il y a d'autres images qui décrivent le processus suivant lequel nous présentons les commentaires publics, nous faisons les déclarations d'ALAC, mais comme nous avons peu de temps, on va vous laisser l'information, on va donner l'information à la présidente et si vous êtes intéressé, eh bien, nous pouvons vous envoyer toutes ces diapos. Je vous prie de passer à la dernière diapo parce que là, il y a tout le processus. Voilà, vous voyez la déclaration, vous avez ces deux images qui sont en ligne et je vais les laisser à la présidente. On passe maintenant à la dernière page. Il y a des liens importants, la correspondance ad large. Là, vous avez, là, il y a toutes les déclarations faites par le comité consultatif ad large. Elles sont toutes stockées ici. Une déclaration est un courrier, une correspondance approuvée par les 15 membres du comité consultatif ad large. Si on n'a pas la majorité des votes, eh bien, il n'y a pas de déclaration. La déclaration n'est pas publiée. S'il y a une déclaration, c'est-à-dire qu'il y a le soutien d'ad large. Nous, on est basé sur le consensus. S'il n'y a pas de consensus, On ne continue pas avec les démarches à suivre. Si vous êtes intéressé à voir notre processus de développement de politique, dans la deuxième page, vous pourrez jeter un coup d'œil. Si vous avez le temps, vous entrez dans ce lien et là, vous pourrez voir comment on fait les déclarations au fur et à mesure. Tout ce que nous faisons est très transparent. Au fur et à mesure que l'on rédige les déclarations, on les met dans la page Wiki et les gens de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être membre du comité consultatif à large. Ce n'est pas nécessaire non plus d'être membre d'autres comités. C'est-à-dire tout le monde peut faire des commentaires là-dessus, sur la déclaration. Et finalement, il y a le chef d'orchestre qui va dire quels sont les différents points de vue basés sur les différents commentaires. Finalement, il y a les groupes de travail. Il y a beaucoup de groupes de travail internes. C'est des groupes internes parce qu'ils appartiennent à Adlarge, mais toute personne peut venir travailler dans ces groupes. Et chacun des groupes aborde des questions spécifiques. Imaginez-vous que le volume de courriel serait énorme pour pouvoir suivre tout cela. Alors, il y en a qui travaillent sur les noms de domaines internationalisés, le processus des nouveaux GTLD, mais il y a aussi des groupes de travail qui sont liés au renforcement de capacités, à la participation, à l'engagement, d'autres avec les programmes de leadership. On l'appelle l'Académie ICANN dans un sens plus large. Voilà, c'est un des travaux que nous faisons pour essayer de passer le message de l'ICANN et que les gens du monde entier puissent participer du développement des politiques de l'ICANN. Je crois que cela peut vous donner une idée générale. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. Heather, merci de votre présentation sur ALAC et sur votre manière de travailler. Vous avez des questions à poser à l'AC sur cette partie spécifique de l'organisation de Singapour, s'il vous plaît. Singapour, merci Madame la Présidente, bonjour. Je voudrais poser une question pratique, une question de base. Nous savons tous que l'ICANN a passé des contrats avec les registres et les bureaux d'enregistrement. Et nous, en tant qu'utilisateurs finaux, nous pouvons accéder au réseau parce que normalement, nous n'avons pas de rapport avec les bureaux d'enregistrement. Alors, lorsqu'il y a un rapport avec le concepteur web et s'il y en a un fournisseur, où est-ce que nous pouvons aller, nous, les utilisateurs finaux? Parce qu'il y a beaucoup de plaintes des utilisateurs finaux. Alors, que fait ALAC dans ce cas? Ou quel est le groupe de travail qui analyse ce domaine non réglementé du fournisseur d'hébergement et du concepteur web? Parce que nous recevons beaucoup de plaintes des utilisateurs finaux. Et nous savons que cela n'est pas réglementé par l'ICANN. Et je veux savoir qu'est-ce que l'on peut faire là-dessus. Olivier, l'un des vice-présidents, je crois qu'il va pouvoir répondre à cette question. Evan Lebovitch, bonjour. Nous, à l'ICANN, on est défini comme utilisateur finaux, hein, et ce n'est pas nécessaire que les gens qui mettent des contenus dans le web, qui utilisent des fournisseurs. Nous parlons des utilisateurs finaux, ceux qui accèdent depuis le foyer, dans les bibliothèques, dans les cafés. Eh bien, c'est l'utilisateur qui est à la base de la pyramide. Cette personne n'est même pas dans la chaîne d'alimentation, entre guillemets, de l'ICANN. Il n'achète pas des domaines. Hein. L'ICANN est très concerné dans cette chaîne alimentaire, mais comme l'utilisateur final n'a pas un apport direct, il ne figure même pas. Alors, voilà pourquoi l'ALAC concentre son attention sur cette question. Les gens qui reçoivent les services d'hébergement ou qui vont chez un fournisseur d'hébergement qui donne un nom de domaine avec un paquet d'hébergement, quelconque. Alors, ils ont la difficulté pour aller chez le fournisseur d'hébergement parce qu'on dit, le registre dit, non, ce nom nous appartient, ce nom ne vous appartient pas à vous. Et c'est difficile, hein? Cela provoque des difficultés. Et les utilisateurs finaux sont les registrants, ce sont les propriétaires des noms de domaine. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais il y a différents regroupements au sein de la GNSO qui parlent ou qui participent de ce genre de choses. Mais il est donc important que les droits des utilisateurs soient incorporés. On travaille là-dessus de manière permanente. Et nous savons que le RAA actuel a déjà fait les premières démarches dans cette direction. C'est un travail qu'il faut continuer à faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je vais vous donner une idée de nos enjeux à nous. Quels sont nos défis par rapport à l'utilisateur final qui n'est représenté nulle part au sein de l'ICANN? À l'AC, nous représentons l'intérêt public. Alors, quand nous parlons de sociétés d'hébergement qui sont des fournisseurs d'informations, alors là, cela a trait aux registrants. OK?
Heather prend la parole. Je crois qu'il y a une question ou un commentaire ici à ma droite. Merci beaucoup. Sarah Tamanika. Tamanika Wamar. Je veux faire un commentaire sur ce que le Singapour a dit. Je crois que c'était une question vraiment pratique. Si vous écoutez ce qui a été dit, le président de la LAC, dans son introduction, il a parlé de l'évolution de la LAC qui est passée d'une fonction de comité consultatif et à une gestion opérationnelle supplémentaire. Je crois que nous pourrions penser à avoir un mandat supplémentaire. Je ne sais pas trop comment cela peut être structuré, mais dans le contexte où il y a du cybersquattage, il y a des questions de juridiction extraterritoriale, nous devons tenir compte du fait qu'il y a un consensus mondial. Bon, enfin, je ne dirais pas de consensus, je dirais la voix de la communauté qui va à l'encontre de toute modalité de réglementation pure et dure de l'Internet. Il ne s'agit pas que de la création des traités ou de nouvelles lois, davantage de lois. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'il faut augmenter la participation ou là où l'on puisse être consulté comme conseil. Par exemple, lorsqu'il y a eu des violations, il est très difficile d'exécuter cela dans la juridiction, dans sa propre juridiction, mais dans les alliances, dans les réseaux, au moyen de lettres, des lettres adressées directement au bureau d'enregistrement. Si on a l'autorité suffisante qui a été octroyée par la communauté de l'ICANN, on peut avoir, on peut peser plus lourdement et on peut faire des apports plus intéressants, parce qu'en définitive, cela se rapporte à l'intérêt public mondial. Donc, je félicite le Singapour d'avoir soulevé cette question. C'est Heather qui prend la parole. Merci, Salanieta. Je crois que nous pouvons aborder le prochain point de l'ordre du jour. Olivier prend la parole. Le point suivant concernera l'avis du SSAC sur les nouveaux GTLD. Il y a Ivan Leibovitch qui va vous présenter cela. Ivan Leibovitch parle. Merci encore. Je veux soulever quelques questions qui se trouve sur notre image radar et sur celui de bien des fois des membres, bien des nombreux membres nationaux qui sont ici présents. Les domaines sans points, les chaînes de caractères qui sont en conflit avec des chaînes de sociétés commerciales, des chaînes d'entreprises. Là, nous avons un problème de stabilité et de sécurité, à notre avis. La LAC a été très claire, très directe. Il a affirmé que l'ICANN ne doit pas aller de l'avant sur des questions telles que les domaines sans points. Ce que nous avons, c'est une organisation de l'ICANN qui est le SSAC, le comité consultatif sur la stabilité et la sécurité. Donc le SSAC a dit qu'il ne peut pas y avoir de domaines sans points. Cela nous étonne donc que l'ICANN continue à faire des recherches à cet égard, alors que son propre comité d'experts a été aussi tranchant à cet égard. Olivier Crépin-Leblond a envoyé récemment un message à l'ICANN pour dire que la LAC donner son soutien à ce que le SSAC avait donné, que l'ICANN devait s'assurer que cela ne se reproduise pas. Il en va de même pour les chaînes de caractères en conflit qui suscitent des conflits avec des chaînes de caractères d'entreprise. Nous croyons qu'il s'agit aussi d'un thème lié à la stabilité et la sécurité, surtout. Et nous allons donc continuer à aller de l'avant pour dire à l'ICANN de ne pas permettre ce genre de choses. Nous voulons savoir ce que vous en pensez pour voir si le GAC a les mêmes soucis que nous avons, nous, en ce qui concerne la sécurité et la stabilité de l'Internet. Olivier prend la parole. Merci, Ivan. Notre souci, notre préoccupation est de nous assurer que l'expérience de l'utilisateur n'ait pas d'impact négatif sur ces points spécifiques, à cause de ces points spécifiques. Il ne doit pas y en avoir plus de 15 de ces nouveaux GTLD. Heather prend la parole. Merci d'avoir présenté ce nouveau thème. Est-ce qu'il y a des membres du GAC qui voudraient faire des commentaires à cet égard? Oui, l'Italie prend la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Quant à ce problème de la sécurité, il est évident que nous suivons toute l'activité du comité sur la sécurité et la stabilité parce que c'est le lieu le plus compétent pour ce cas spécifique. Des domaines pardon, 100 points, nous avons déjà eu une réunion où nous avons discuté un tout petit peu de cela et nous sommes heureux de voir que vous avez ce même type de préoccupation. Et le GAC doit émettre son opinion à cet égard. La question des domaines 100 points me rappelle quelque chose qui est arrivé il y a quelques années lorsque nous avons parlé du wildcard, du caractère aléatoire. ICANN a éliminé la possibilité de se servir des wildcards et même à ce moment-là, il a fallu faire quelque chose de particulier. J'ai lu cette proposition qui dit que si l'on ne permet pas cela, on est contre l'innovation. Mais cette nouvelle idée soulève une certaine incertitude, nous met dans une situation un peu risquée. Pourquoi la communauté devrait-elle avancer en ce sens-là? Parce que c'est les utilisateurs, en définitive, qui doivent vérifier que le comportement soit absolument prévisible, que ce comportement suit la norme. Nous sommes donc d'accord, tout à fait d'accord sur la préoccupation que vous avez présentée. Heather, merci l'Italie. Donc, pour l'école de la LAC, oui, nous avons reçu les membres de l'ESSAC, du ESSAC auparavant et nous nous sommes entretenus de certains de ces thèmes liés au point que vous venez de soulever. Nous avons entendu parler de certificats de noms internes, des collisions des noms et des domaines sans points. Nous avons pris bonne note de tous ces rapports et le GAC en tiendra compte dans ses débats et dans ses recommandations. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole sur ce sujet? C'est l'Australie qui prend la parole. Merci Madame la Présidente. Merci aussi aux collègues de la LAC d'être parmi nous ce matin, de parler de ce thème qui a une telle importance. Comme cela a été dit, nous avons eu des réunions avec le SSA qui ont été assez concrètes sur ce point, et en particulier sur les domaines sans point. On a clairement dit qu'il y avait des objections et dans des rapports d'autres experts du domaine technique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à faire. Nous avons posé la question au conseil d'administration. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas émettre de commentaires en ce moment. parce qu'ils attendaient un autre avis, un autre rapport, et je ne sais pas donc exactement ce que peuvent faire ou ce que doivent faire le GAC et la LAL, parce que les experts ont été vraiment tranchants. Ils ont eu une position tranchante. Hein, nous pouvons les soutenir, mais je ne sais pas si nous pouvons faire quelque chose d'autre. Est-ce que vous auriez d'autres idées ? Olivier prend la parole. Merci beaucoup, l'Australie. Le problème que je vois au sein de notre communauté, c'est que même si les experts techniques ont émis un avis très clair, le conseil d'administration de l'ICANN ne l'a pas été. Donc ce qui fait déclenche la sonnette d'alarme, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres recherches, d'autres études. Il aurait fallu prendre comme une hypothèse très claire que l'évidence est vraiment accablante. Je vois que Alan demande la parole. Alan prend la parole. Moi, je n'ai aucun doute que même si les recommandations techniques sont accablantes et qu'elles sont orientées vers un même point, il n'y a pas de consensus dans la communauté. Et un grand nombre d'intérêts commerciaux ont fait savoir leur opinion sur le fait que les questions techniques ne sont pas spécialement pertinentes et que l'ICANN devrait permettre cette nouvelle modalité d'adressage. En l'absence d'autres preuves, il est clair que le conseil d'administration en a tenu compte, et c'est pour cela qu'il demande une formation supplémentaire, étant donné que notre mandat fondamental concerne la sécurité et la stabilité du DNS. Je ne vois pas d'autres raisons possibles pour faire quelque chose d'autre qui ne soit que le respect du conseil ou de l'avis technique. Mais aller à l'encontre de l'avis technique et dire que cela peut causer des problèmes techniques, nous, au point de vue des utilisateurs, les constructeurs de fureteurs ou de navigateurs nous ont dit peut-être pas des problèmes de stabilité, mais des problèmes avec les utilisateurs. Nous n'avons pas d'autre réponse en ce moment que le non. Et nous réservons nos considérations pour plus tard lorsque il y aura davantage des précisions sur ce thème. Ce n'est pas ce que le conseil d'administration a fait jusqu'ici. Heather prend la parole. Merci, Alan. L'Australie prend la parole. Merci de cette précision. Je crois que l'on a pu clairement comprendre que les gouvernements partagent ces soucis sur la stabilité et la sécurité des utilisateurs finaux. Je crois que nous sommes sur la même ligne de réflexion. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre. La LAC considère-t-il des déclarations d'une certaine sorte ou la présentation d'une position formelle pour éviter des doutes? Je réfléchis sur la question de la clarté. Ce à quoi je réfléchissais hier après la réunion du SSAC, je me disais qu'il faudrait peut-être parler encore une fois ou réfléchir encore une fois sur ce que l'on a, sur quoi on s'est entretenu avec le conseil d'administration. Mais il semble bien qu'il n'y ait pas de consensus dans la communauté. Est-ce qu'il faut que nous soyons la voix potentielle sur la question de la sécurité, de la stabilité, ou c'est quelque chose que les experts techniques doivent aborder? Olivier prend la parole, Heather prend la parole maintenant, Olivier, et puis le Royaume-Uni. Olivier prend la parole, merci Madame la Présidente, et merci beaucoup à l'Australie aussi. Je crois qu'en définitive, la LAC a déjà émis sa déclaration pour soutenir l'avis du SSAC, en ce sens que l'on est inquiet. Le comité consultatif technique de l'ICANN semble être remis en cause par le fait que l'on ait demandé de nouvelles études, de nouvelles recherches. Il semble bien, et moi je pense de façon très claire, que l'avis du SSAC doit être respecté. Mais l'ICANN a décidé à plusieurs reprises de ne pas suivre l'avis de la LAC. Il y a des rapports spécifiques avec l'ICANN qui datent d'il y a longtemps, de C'est-à-dire si l'ICANN va à l'encontre de l'avis du GAC, le conseil doit, l'ICANN doit donner des explications à cet égard. Je crois que la communauté est très inquiète à cet égard et nous devrions considérer la possibilité de faire une déclaration. Maintenant, le Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Merci, Olivier et l'équipe. Je crois qu'il y a là une urgence. Nous aurons d'ici peu les nouveaux GTLD et les deux thèmes doivent faire l'objet d'une discussion et très vite. Il s'agit de thèmes dont l'impact est très fort sur la stabilité et le système doit être robuste et sûr. Il ne faut pas qu'il y ait de lacunes qui permettent des activités malveillantes. Les domaines sans point sont une brèche hein, pour cette activité malveillante des domaines sans point. Alors je soutiens, donc je donne mon soutien à ce fait que le GAC présente une affirmation, une déclaration claire du fait que l'on n'a pas besoin de recherches supplémentaires parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Heather prend la parole, elle la cède à Evan. Merci, Evan. Que pouvons-nous faire pour répondre à ce que l'Australie a dit? Bon, je vais parler de la réunion d'hier entre le SSAC et la LAC. Nous sommes vraiment très reconnaissants du travail qui a été fait, d'avoir reçu une autre voix qui nous soutienne. C'est ce à quoi nous attendions. Ils ont fait les déclarations, ils ont voulu se faire entendre, ils ont voulu s'assurer que le conseil d'administration saurait qu'ils ne sont pas ambigus, qu'il y a tout un élan lié à l'intérêt public derrière tout ce qu'ils essaient de dire, tout ce qui pourrait renforcer cette orientation devant le conseil d'administration de l'ICANN serait très bien accueilli. Heather prend la parole. Merci beaucoup. Je crois comprendre que Alain va parler du dernier thème du jour. Alain. Non, Olivier, d'accord. Olivier prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Le prochain thème concerne les PIC, les engagements sur l'intérêt public. Je vais céder la parole à Alan Greenberg pour qu'il s'exprime à propos de ça. Alan Greenberg, ALAC a été vraiment très satisfait lorsque l'on a annoncé les PIC, les engagements d'intérêt commun. Nous avons pensé que cela allait couvrir ou colmater une brèche énorme qui existait dans le programme des nouveaux GTLD, parce que cela ne garantissait que les TLD non communautaires n'allaient pas être respectés. Et c'est quelque chose pourquoi nous avons fait une campagne depuis 2007 et qui ne se trouvait pas sur le guide du candidat. Nous pensions que ce n'était pas la meilleure façon de le faire, mais c'était de toute façon une modalité viable. Et nous avons été extrêmement déçus quand nous avons vu que la procédure de résolution de litige a été annoncée et que l'on a expliqué qu'il fallait qu'il y ait un préjudice qui ait pu être prouvé par qui que ce soit qui réclame avoir une résolution pour ce type de différend. L'ICANN peut présenter un dossier de différents pour sa part, mais il n'est pas exempté d'avoir à prouver qu'il y a eu un dommage qui puisse être prouvé. S'il y a un dommage qui peut être prouvé, ou bien si les factures et les charges ne sont pas payées, bon, on a un peu l'impression que l'on revient sur le régime précédent. Ce que nous avons entendu dire à Pékin, c'est « Bon, très bien, merci de votre inquiétude ». C'est ce que le conseil d'administration nous a dit à Pékin. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient davantage d'explications. Nous avons présenté la question du conseil d'administration pendant cette réunion et je ne sais pas si, en ce moment, il ne s'agit pas d'un thème qui devrait mériter davantage de discussions ou pas. Fadi a fait des commentaires là-dessus. Il a dit que cela serait fait par une action de supervision de toute la communauté et qui que ce soit pouvait dire à l'ICANN lorsqu'il y avait des infractions et qu'à ce moment-là, l'ICANN allait prendre les mesures nécessaires pour appliquer les engagements d'intérêt public, les PIC. Il a dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait des problèmes, mais cela ne s'est pas produit de la sorte et nous estimons qu'il y a un problème. L'engagement d'intérêt public ne sera efficace que si nous pouvons garantir que l'infraction a été identifiée et c'est là que l'ICANN va s'engager dans une action. Il faut que chacun démontre qu'il y a un préjudice et qu'il le prouve et il devra engager son propre argent pour commencer ce processus de réclamation pour montrer que l'ICANN, pour que l'ICANN fasse quelque chose. Bon, il y en a qui disent à l'ICANN, par exemple, le directeur général vous dit, bon, nous allons faire ce que vous voulez que nous fassions, mais nous n'avons pas encore vu tout cela sur un document et je m'inquiète jusqu'à ce que cela n'aura été clairement exprimé. Bon, maintenant, l'Australie prend la parole. Merci, Alan, encore une fois. Cela inquiète aussi le GAC. C'est un thème qui a été soulevé devant le conseil d'administration par le GAC à Pékin. Les gouvernements voulaient voir si nous allions pouvoir aussi soulever des inquiétudes au nom des regroupements. Le gouvernement devait prouver le dommage occasionné ou causé au gouvernement ou si cela pouvait être aussi appliqué au regroupement, si nous pouvions poser ce type de préoccupation au conseil d'administration. Nous avons eu des commentaires du même type. On nous a assuré, on nous a dit que nous devions nous inquiéter de ce type de choses. Il se peut qu'il s'agisse d'une préoccupation, pour ainsi dire, résiduelle. Nous avons tous entendu la même chose, mais nous devons nous assurer que cela sera respecté. Bon, Heather prend la parole. Un commentaire d'Alan. Alan prend la parole. Comme le conseil d'administration a répondu aux questions et aux sauvegardes par le nouveau concept des engagements d'intérêt public obligatoire, je crois qu'il est encore plus valable maintenant de garantir que ces PIC soient appliqués. Autrement, ces PIC, ces engagements d'intérêt public n'ont aucune logique. Il ne s'agit que d'un discours vide. Heather prend la parole. Merci. Un orateur qui n'est pas identifié prend la parole. Holly Rice de l'Australie. Holly Rush, pardon. Holly Rice. Lorsque nous avons eu notre réunion avec le conseil d'administration, Alan a dit que l'applicabilité était liée au concept du tiers bénéficiaire. Si toutefois il y avait un préjudice, on nous a dit que cette question était réglée, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Heather prend la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? L'Iran? Non? Merci. Je crois que nous pouvons conclure cet échange avec la LAC. L'Iran, oui. Alors, vous voulez vous exprimer? Bon, l'Iran prend la parole. Pas sur le dernier point, mais sur le thème en général. Bonjour à tous. Merci des présentations que vous avez faites. J'ai un commentaire ou une remarque très générale en ce qui concerne les régions et aux 15 membres. En premier lieu, comment fait-on pour identifier les régions? Vous l'avez expliqué, je l'ai vu, mais quel est le rapport entre les régions et les membres du comité qui représentent les différentes entités, les personnes? Et la rotation, s'il y a quelqu'un en particulier qui n'est pas présent, cette rotation, cette distribution des participants, comment est-elle gérée? Quelle est la distribution faite entre la représentation des pays en développement et des pays développés? C'est quelque chose de très important. Les deux visions doivent être dûment représentées. Les deux doivent avoir l'occasion de partager l'information. Et en particulier, la rotation est un thème vraiment important. Et les raisons pour lesquelles cela doit être fait, c'est parce que parfois les divisions sont arbitraires entre les régions. il n'y a pas de raison d'être qui soit établie pour la distribution des régions. Alors, si vous pouvez m'éclairer un tout petit peu à cet égard, et si nous avons le temps, je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup.
Olivier prend la parole. Carlton Samuels va expliquer de quoi il s'agit. Carlton, on a mené cette conversation depuis des années, hein, avec le groupe de travail des régions géographiques, les géorégions, à savoir un groupe de travail intercommunautaire qui a essayé de répondre à cette même question. Les régions sont définies par une autorité. Pardon. Tout d'abord, on a évalué la définition des régions d'autres organisations, comme par exemple les Nations Unies. Je ne peux pas vous donner les détails, mais le groupe de travail des régions géographiques a un séminaire le jeudi à 12h30 dans la salle 2D, pardon, la salle 2C. Nous aimerions vous accueillir pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne. J'ai la demande de parole de la Malaisie et je crois qu'après ça, on peut clôturer la réunion. La Malaisie prend la parole. Merci de votre présentation. Je voudrais vous demander pour le point health, point santé. J'ai une préoccupation à ce sujet. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur Point Health, expliquer son statut? Olivier, merci. Malaisie, la personne à la charge de ce processus n'a pas pu venir dans la réunion. Mais par contre, il y a la personne qui est chargée du filtrage des objections. Dave Lixon. Dave prend la parole. Dave Annan. Pour ce qui est des objections, il y en a trois. Pardon, il y a eu trois candidats pour Point Health. Il s'agit d'un processus ascendant de considérations et commentaires de la part des régions et par la suite par l'AC. En ce moment, le processus d'objection est dans la Chambre de commerce internationale qui s'occupe de gérer les objections. Notre déclaration a été présentée. Les candidats ont présenté les réponses. Et un panel d'objections communautaires a été formé pour analyser tous ces arguments. Voilà où nous en sommes à ce jour. Olivier, merci beaucoup, Dave. Un dernier commentaire, un commentaire final par rapport à la demande de l'Iran. Ivan, en ce qui concerne les pays en développement par rapport à l'ICANN, c'est-à-dire leur engagement ou leur implication, il faut dire que l'un des premiers efforts de collaboration entre l'AC et l'ICANN a été le programme de soutien pour les candidats au nouveau GTLD. Voilà quelque chose sur laquelle on a pu travailler conjointement et en collaboration. Par la suite, l'ICANN a mis cela en place. Cette question fait l'objet de la préoccupation et en fait, cet après-midi, entre le groupe de travail des nouveaux GTLD, il y aura une réunion pour analyser les effets ultérieurs. Quelles en sont les leçons à tirer, comment on va travailler dans l'avenir. Il s'agit d'une question qui nous intéresse tous. C'est quelque chose d'extrêmement important pour tous les membres, pour tous les pays en développement ainsi que pour tous les membres. Merci, dit Heather. J'aimerais clôturer la réunion, mais le Royaume-Uni veut faire un commentaire. Vous voulez faire le commentaire ou je peux clôturer la réunion? OK. J'imagine que la LAC sera toujours disponible pour discuter de toute autre question qui puisse vous intéresser. Je vous remercie énormément d'avoir présenté toutes ces questions, de nous avoir parlé de toutes ces questions Et eh bien, nous allons prendre en considération le rapport. On peut l'inclure dans notre communiqué. Je ne sais pas si ce sera possible parce qu'il s'agit de questions trop techniques, mais si c'est quelque chose que l'on pourra peut-être discuter pour renforcer le travail effectué par notre comité consultatif et aussi donner le soutien aux préoccupations présentées par la LAC. Olivier, merci Madame la Présidente, merci. Merci beaucoup aux membres du GAC d'avoir écouté notre présentation et nos préoccupations. Heather, merci. On va prendre quelques minutes et je demande aux gens du GAC de rester à leur place parce que on va donc organiser l'ordre du jour du reste de la journée pour voir les questions clés à traiter et par la suite, on va aller dans notre pause café. Merci.